Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Christelle Yesso.
Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette édition. 225 missions de contrôle réalisées par les agents de contrôle de l'ordre administratif au cours de l'année 2022 avec un taux de réalisation de 70% de recommandations mises en œuvre, explique le rapport des activités de l'inspection générale d'État présenté hier au vice-président. Affaire drogue découverte à Abidjan et San Pedro. Les inculpés entendus hier au cours d'un procès au pôle pénal économie et financier nient toute implication dans ce trafic. Et à l'international, des scènes de liesse sont enregistrées à Dakar après la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. On refermera ce journal avec l'invité de la rédaction, Blain Alexis Cross, directeur régional de la fonction publique du Kabadougou, nous en dit plus sur les nouvelles réformes instituées par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. L'inspection générale d'État a procédé jeudi à la remise du rapport des activités réalisées au cours de l'année 2022 au vice-président Tiémoko Meïlé Koné, représentant le chef de l'État. Ce rapport, qui a pour but de rendre compte des missions d'inspection, de contrôle et d'audit interne effectuées dans les services publics et parapublics, a été présenté lors d'une cérémonie solennelle à la présidence de la République. Linda Ballier pour le compte-rendu.
Avant de remettre ce rapport d'activité 2022, l'inspecteur général d'État Waoundoli Théophile a ressorti quelques points non sans relever des difficultés.
De manière générale, les organes de contrôle de l'ordre administratif ont réalisé au total 225 missions de contrôle au cours de l'année 2022. Nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés, commençant par l'IGE. Le besoin en matière de ressources humaines s'est cruellement posé. L'IGE disposait en 2022 d'une équipe opérationnelle de 30 inspecteurs et auditeurs. Contre 55 prescrits, il a été aussi relevé l'insuffisance du nombre d'inspecteurs dans les IGM.
Un taux de 70% des recommandations a été mis en œuvre. Cependant, des efforts restent à faire selon l'inspecteur général Awaoundoli.
Il y a au total 102 recommandations. Sur ce nombre, 71 ont été mises en œuvre, soit une réalisation de 70% qui est en hausse par rapport à 2021 qui était 67%, mais surtout en grande hausse par rapport il y a à peine 5 ans où on était à 40% de réalisation.
Pour sa part, le vice-président Tiémoko Meïlé a assuré rapporter fidèlement les mentions de ce rapport au chef de l'État.
Je tiens à vous féliciter pour tout le travail que vous avez accompli. Je voudrais vous assurer que les constats et les dysfonctionnements relevés dans les rapports que je viens de recevoir, ainsi que les recommandations, les doléances formulées, feront l'objet d'un compte-rendu fidèle à son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Le vice-président Tiémoko Meïlé a invité in fine tous les responsables administratifs à obligatoirement rendre compte de leur gestion.
Situation des déguerpis de Boribana et de Jesco. Le gouvernement a annoncé des mesures d'accompagnement à l'endroit de ces populations à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024. Pour Koné Kalilou, représentant des populations déguerpies du quartier Boribana, ces mesures viennent comme un soulagement, même s'il estime que le gouvernement peut mieux faire. Il est en ligne avec Mel Emmanuel.
On a eu connaissance de ces mesures-là dans le journal télévisé de 20h. Je pense que ces mesures-là vont venir soulager un peu les populations, vraiment qui ne savaient plus où se diriger. Il faut dire que les démolitions ont été faites tout azimut, sans prévention préalable.
Monsieur Koné Kalilou, est-ce que vous trouvez ces mesures d'accompagnement du gouvernement pour les populations déguerpies suffisantes?
Bon, on ne va pas dire que c'est suffisant, mais c'est déjà un pas déjà. Du moment où le gouvernement a l'intention déjà de reloger ses familles, c'est déjà un pas déjà. C'est à saluer, mais je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Parce que dans ces mesures, on nous dit que c'est des surfaces de 75 à 100 mètres carrés. Quand même, on trouve que c'est peu. Mais bon, pour le moment, je pense que les populations vont accepter ça pour pouvoir avoir déjà un toit. C'est le plus important d'abord.
Koné Kalilou, représentant des populations déguerpies du quartier Boribana. Parmi donc les mesures prises par le gouvernement à l'endroit des populations déguerpies, figure une aide au relogement à hauteur de 205 000 francs par ménage. Les populations abidjanaises se sont prononcées sur ces mesures. Voici leur avis.
C'est bien. Moi, je crois que c'est bien. Ça pourra sûrement les aider à se reloger d'une manière ou d'une autre. Mais après, je me dis que l'État peut mieux faire. Au lieu de remettre de l'argent, ça serait mieux de faire des logements sociaux, reloger ces personnes-là avant de passer au CAS.
Ça ne pourra pas peut-être aider les personnes qui ont perdu leur maison, mais je pense que ça va peut-être diminuer la colère qui est dans leur cœur, donc c'est une bonne initiative.
Je pense que c'est très peu, ça, 250 000 aujourd'hui, ça peut rien faire, franchement. C'est peu, au moins ils auraient pu les reloger. C'était mieux même que ce montant-là, je trouve.
Ils auraient dû prendre ces mesures au préalable. Dans leur démarche, je pense que même si les gens ne seront pas entièrement satisfaits, il y a une envie au moins d'aller dans ce sens-là.
Je trouve que c'est suffisant déjà, parce que le fait de donner ça avant, on décrépissait seulement des maisons, on ne donnait rien, il n'y avait même pas l'espoir. Mais après, avec ces 250 000, quelqu'un peut se retrouver, il peut trouver même quelque part où aller d'abord habiter en attendant. Donc moi, je trouve que c'est mieux.
Affaire drogue découverte à Abidjan et San Pedro. Une audience s'est tenue au pôle pénal économie et financier hier jeudi, mettant en avant les accusés Hussein Tan, propriétaire des établissements des gâteaux et du pain et pasta pizza, ainsi que Coco Mauricio, responsable de l'entreprise Italia Service, tous deux incriminés dans une affaire de trafic international de cocaïne et de fraude fiscale. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Dès l'entame du procès, les avocats de Hussein Tan ont demandé une suspension de l'audience pour non-conformité des pièces en leur possession. Une requête acceptée par la présidente du tribunal. Lorsque le procès reprend son cours normal, le procureur de la République et la partie civile veulent comprendre l'implication du fondateur de Pasta Pizza avec les présumés cerveaux de ce vaste réseau de trafic de cocaïne que sont les frères Antonio Bruzzaniti et Bartolo Bruzzaniti, tous deux non présents à ce procès. En affaire avec Antonio Bruzzaniti sur l'établissement Pasta Pizza, Hussein Tan dit ne pas connaître les antécédents de son associé, car lui ayant présenté un casier judiciaire vierge, c'est donc sur cette base qu'ils ont monté leur affaire. Afin de démontrer les limites de l'instruction, Maître Rodrigue Dadier, avocat du Saint-Anne, a fait remarquer au tribunal que le dossier de son client est vide car le parquet se base sur des recherches Facebook et conversations de groupe WhatsApp à laquelle son client n'a aucunement participé. Tout comme Hussein Tan, il est reproché à Coco Mauricio, cet ingénieur italien, d'être au centre de cette affaire de trafic de drogue à travers son établissement Italia Service spécialisé dans le BTP. Associé à Antonio Bruzzaniti, il lui est reproché de faire la fraude fiscale, une chose qu'il refute car pour lui, Antonio Bruzzaniti n'intervenait pas dans la gestion de l'entreprise, même s'ils étaient associés. Après avoir entendu toutes les parties prenantes à ce procès ce jour, la présidente du tribunal a mis fin à la séance et est reportée à jeudi prochain pour la poursuite des interrogatoires. Près de 24 personnes sont poursuivies dans cette affaire.
Tout autre sujet dans cette édition, les agents des collectivités décentralisées accusent une grève depuis mercredi 13 mars et ce jusqu'au 15 mars sur toute l'étendue du territoire national. Pour cause, le paiement de toutes les primes annoncées par le chef de l'État à l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État, explique l'adjudant-chef Aziamouk, secrétaire général de la SINAPOMUSI, le syndicat de la police municipale de Cocody.
Sur le territoire ivoirien, il y a eu 80% des mairies qui ont fermé pour revendiquer le départ à la retraite. Les collectivités payent dans les agents quand ils voient la retraite. On paye le départ à la retraite. Le DG, il a fait suspendre ça jusqu'à aujourd'hui. On revendique que cela soit payé dans l'immédiat. Plus l'indemnité de logement, y compris les autres primes, c'est-à-dire 13e mois. C'est tous ces primes-là que nous réclamons. Ils ont donné instruction aux collectivités de mettre dans le budget, mais de prévoir quand ils vont signer les arrêtés. Mais depuis que le président a parlé, ça fait on est dans la troisième année, vous n'avez pas encore signé décret. Dieu merci, ils sont en train de parler avec nos responsables. Les quatre syndicats responsables signataires de cette grève-là sont en train de parler avec le DG de la décentralisation. à la sortie de là-bas, ce qu'ils vont nous dire, si on va continuer la grève ou pas, on va aviser.
Vous écoutiez à l'instant l'adjudant-chef Asia Mouk, secrétaire général de la SINAPOMUSI, syndicat de la police municipale de Cocody. Cette grève, selon le directeur général de la décentralisation et du développement local, est illégale au vu des travaux mis en œuvre pour la prise en compte de ces revendications. Nous écoutons donc à cet effet Fidèle Yapi.
La grève que vous observez dans les mairies, sur le principe juridique, est illégale pour plusieurs raisons. Les acteurs qui sont concernés par la grève, qui est la plateforme des syndicats, m'a adressé un préavis de grève en date du 28 février, alors que nous étions en pleine conférence budgétaire pour examiner les programmes et les budgets des collectivités qui devaient prendre en compte leurs mesures sociales, les revendications que l'ensemble de la corporation a exprimées. Il s'agit de quoi ? Des mesures sociales que le président de la République a octroyées aux fonctionnaires et agents de l'État. A priori, ils ne sont pas concernés. Donc, il fallait transformer les tests pour les prendre en compte. Le 6, je reçois un arrêt de travail. Pour le 13, on a proposé l'organisation d'une réunion le 12 pour résoudre tous les problèmes, faire le point de ce qui a été fait et donner les informations concernant l'évolution des revendications. On donnait des instructions aux maires et aux présidents d'inscrire dans leur budget une provision pour prendre en compte les mesures sociales et le droit de départ à la rue. Il faut être vraiment un extraterrestre pour imaginer que quelqu'un qui initie un télégramme officiel, une structure qui initie un télégramme officiel refuse de l'exécuter.
À l'instant, Fidèle Yapi, directeur général de la décentralisation et du développement local. Un mot de culture dans ce journal, l'édition 2024 du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, s'est tenue autour du thème « Le livre, un Paris toujours gagnant ». Le commissariat général du Salon a procédé mercredi à Cocody au lancement officiel de cet événement qui a réuni les acteurs du livre et les publics littéraires. Didier Blé pour plus de détails.
Le Salon international du livre d'Abidjan, SILA, va se tenir du 14 au 18 mai 2024 au parc des expositions à Port-Boué. Une 14e édition qui sera une fois de plus l'occasion pour la Côte d'Ivoire de démontrer son dynamisme. Le thème choisi, le livre Un Paris toujours gagnant, Ange-Félix Mondapri, commissaire en général du SILA.
À partir du livre, avec le livre, grâce au livre, on peut forcément aller toujours de l'avant. Si vous lisez, vous avez de fortes chances de pouvoir réaliser votre rêve. Il faut pouvoir s'approprier le livre, il faut faire du livre son ami, il faut faire du livre son compagnon. C'est le livre qui nous sort de l'obscurité et c'est le livre qui nous éclaire.
En plus du thème central, le SILA mettra à l'honneur l'écrivain ivoirien Serge Bilé, le pays invité est le Kenya, la ville à l'honneur, Grand Bassa, et au rang des innovations, nous avons le SILA Business, le SILA Légende, une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs du livre, le SILA Scrabble, une kyrielle d'activités que nous décline le commissaire en général.
On a le programme professionnel qui intègre une forte participation des acteurs. C'est un temps fort qui va permettre d'organiser des séminaires, des rencontres professionnelles pour justement partager les expériences mais aussi renforcer les compétences et enfin créer des opportunités d'affaires en matière d'achat et de cession de droits.
Notons que le SILA 2023 avait réuni un peu plus de 200 auteurs, 60 exposants, 115 000 visiteurs et proclamé 7 grands prix littéraires nationaux.
Dans l'actualité internationale, l'opposant numéro 1 du Sénégal, le fondateur du parti dissous PASTEF, Ousmane Sonko, et son fidèle lieutenant et candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, ont quitté la prison de Cap-Maniel jeudi soir. 10 jours avant la présidentielle, les deux opposants sont libres. Un peu avant minuit, ils ont quitté la prison de Cap-Maniel à bord d'un véhicule aux vitres teintées. En moins d'une heure, la nouvelle de leur libération a transformé la capitale en une gigantesque fête. Dès le départ de la prison, le convoi de dizaines de véhicules a pris la route vers la cité Cœur Gorgui, le quartier de Dakar où habite Ousmane Sonko, créant ainsi un embouteillage géant et une manifestation spontanée. L'attaque d'un hôtel jeudi soir par les islamistes radicaux Shebab dans la capitale somalienne Mogadiscio est terminée, a annoncé ce vendredi la police, précisant que tous les assaillants ont été tués. Près de 13 heures après que les Shebab ont lancé l'assaut contre l'hôtel, situé à proximité de l'enceinte ultra sécurisée de la Villa Somalia, un complexe fortifié abritant la présidence somalienne et le bureau du Premier ministre. Aucun bilan de l'attaque n'est disponible dans l'immédiat. Et nous en arrivons donc à l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons le directeur régional Kabadougou de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Blain Alexis Cross nous parle des nouvelles réformes instituées par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, à savoir donc la formation continue, la prise en charge médicale de tous les fonctionnaires, les congés parentaux et bien d'autres. Il répond à cet effet aux questions de Bakary Touré-Labasse.
Monsieur le directeur régional, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Que vise cette formation à l'intention des chefs de service exerçant dans la région du Kabadougou?
Cette formation, c'est pour permettre aux directeurs et chefs de service d'être au fait de la nouvelle loi sur le statut général de la fonction publique. Les innovations qui ont été apportées dans cette loi et pourquoi cette loi, après 31 ans, pourquoi cette loi est en train d'être mise en œuvre? Donc c'est dans ce sens que nous disons merci à Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui nous permet de nous donner des outils de travail nécessaires.
Que dit la nouvelle loi concernant le fonctionnaire?
Mais la nouvelle loi, c'est pour le bien-être du fonctionnaire. On a vu qu'il y a 30 ans, il y a eu des insuffisances dans l'ancienne loi. Donc la nouvelle loi vient corriger un tant soit peu ces insuffisances-là pour le bien-être, pour le bonheur des fonctionnaires.
Quelle est la substance relative à la présente réforme arrêtée par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration?
Les nouvelles réformes concernent essentiellement les congés parentaux. Désormais, tout fonctionnaire bénéficie d'un congé dès qu'il a un enfant qui naît, que ce soit un fonctionnaire femme ou un fonctionnaire homme. Désormais, dans l'ancienne loi, il n'y avait pas de formation prévue, mais désormais, tout fonctionnaire qui débute sa carrière aura droit à des formations successives jusqu'à la fin de sa carrière. Nous avons aussi la prise en compte par l'État du contrôle de santé de tous les fonctionnaires, qui doit se faire annuellement. Le bilan de santé des fonctionnaires, c'est une affaire que l'État a pris en compte.
Et vous n'êtes pas là en train de marcher sur les plates-bandes de la MUSFC, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire?
Oui, mais tout ça, c'est chapeauté par l'État. La MUSFC, elle le fait de façon sectorielle, mais désormais, l'État même prend en charge la santé des fonctionnaires et l'affaire de l'État directement.
Monsieur le directeur régional, c'est qui le fonctionnaire et c'est qui l'employé, souvent appelé agent de l'État?
Bon, un fonctionnaire est d'abord un employé de l'État. Mais pour être fonctionnaire, il faut passer un concours. Dès lors que vous êtes admis au concours, vous recevez une formation. À l'issue de cette formation, vous êtes déclaré fonctionnaire et vous prenez fonction. Donc tout fonctionnaire, c'est quelqu'un qui émerge sur le budget de l'État. Il a un matricule et il est reconnu comme tel.
Mais on a ces agents au niveau même de la fonction publique qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui ont des rémunérations versées par l'État. Alors, quelle différence il y a entre ces derniers et les fonctionnaires?
Effectivement, il y a des agents qui ne sont pas fonctionnaires, qui émergent en fonction des besoins de l'administration. Ça peut être un besoin de secrétaire de façon ponctuelle, comme s'il n'y en a pas, l'administration peut autoriser d'en recruter. Et on peut avoir aussi des techniciens, quelqu'un qui a une technicité dont l'administration a besoin pour les besoins de la cause. Mais c'est pratique là que la fonction publique corrige en faisant la cartographie de ces différents services et à travers cette cartographie là où tous ceux qui travaillent dans les administrations, que ce soit fonctionnaires ou pas, seront recensés. On va estimer les besoins et voir comment on peut essayer de renouveler leur statut. Ils peuvent passer le concours, on peut leur permettre des passerelles pour pouvoir entrer dans l'administration.
Et j'insiste sur la question parce qu'on a beaucoup d'agents qui possèdent de hauts diplômes, mais n'étant pas fonctionnaires, alors on ne peut pas faire leur promotion. Alors que préconise la nouvelle loi pour les personnes constitution dans ces cas de figure?
Bon, il y a des ouvertures qui sont faites, mais ces ouvertures-là, même si ça n'est pas forcément dans la loi, mais il y a des décrets, des arrêtés qui peuvent permettre à ces personnes qui ont travaillé pendant un certain nombre d'années dans ces administrations-là de bénéficier d'une promotion en faisant d'eux des fonctionnaires. Ils peuvent déposer un dossier, ils peuvent passer le concours. Tout dépend du décret ou bien de l'arrêté qui sera signé dans ce sens-là. Mais de plus en plus, on les a intégrés, ceux qui répondent aux critères, qui ont des diplômes, qui ont fait un certain nombre d'années, on les a intégrés.
Ma dernière préoccupation, il y a des agents depuis 20 ans qui sont recalés au grade 3 pour les uns et au grade 4 pour les autres. Alors, comment corriger cet aspect et quelle solution la nouvelle loi compte apporter à cet état de fait?
Oui, on l'a dit, hein, les grades A3, A4, bon, pour pouvoir en bénéficier, évidemment, il y a des concours qui sont lancés. Voilà, ceux qui sont en A4, directement, c'est sur étude de dossier. Mais il faut encore que le concours soit lancé. Si le concours est lancé, qui rentre dans les critères, il y a le nombre de places. Voilà, donc en fonction de tous ces critères-là qui sont définis, c'est comme ça qu'on choisit les gens pour faire les promotions.
Monsieur Blanc, Alexis Cross, merci.
Merci à vous aussi.
C'était l'invité de la rédaction avec Blin Alexis Cross, directeur régional Kabadougou de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. C'est donc ici que prend fin cette édition. À présent, le rappel des titres. 225 missions de contrôle réalisées par les agents de contrôle de l'ordre administratif au cours de l'année 2022, avec un taux de réalisation de 70% de recommandations mises en œuvre, explique le rapport des activités de l'inspection générale d'État présenté hier au vice-président. Affaire drogue découverte à Abidjan et San Pedro. Les inculpés ont été entendus hier au cours d'un procès. Ils nient toute implication dans ce trafic. Et à l'international, des scènes de liesse sont enregistrées à Dakar après la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après la revue de presse avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Coupure générale de la connexion Internet en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays de la sous-région.